jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Votre invité aujourd'hui, Nicolas, dans nos studios, vous recevez Éric Croiset.
Et oui, ce midi, on plonge dans l'histoire et pas forcément une période très facile. De juin 40 à août 44, cette période, c'est l'occupation. Et la Chenove publie et republie un ouvrage, Chaland sous l'occupation. Pour en parler, je reçois donc ce midi Éric Croiset. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc président de la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée, autrement dit aussi la Maison de l'Histoire à Chaland.
Oui. La Maison de l'Histoire, c'est le titre que nous essayons de reprendre un petit peu. Lorsque la société était installée à la ferme de la Caillière, ça s'appelait Maison de l'Histoire. Voilà. Et lorsqu'elle est arrivée à l'espace Martel, on a un petit peu oublié ce nom-là. Il est moins barbare que Chenove.
Oui, c'est vrai. Alors, ce livre, il est là. C'est une réédition. 178 pages d'histoire et de récits. C'est un long, long travail de recherche. Vous vous êtes appuyé notamment sur deux témoignages importants. Celui de l'abbé Grelier et du capitaine Desboutés. D'abord, qui était l'abbé Grelier?
Alors l'abbé Grelier est un personnage qui est quand même très connu à Chaland. C'était ce qu'on appelle un prêtre habitué. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de paroisse, mais il pouvait naviguer comme il le voulait. Et comme il avait la chance d'avoir des parents relativement aisés, il a pu consacrer une grande partie de sa vie à ses recherches historiques, archéologiques, à écrire et à voyager. Voilà. Et donc l'abbé Grelier est très intéressant parce qu'il a laissé énormément d'écrits qui sont tous déposés aux archives de la Vendée. Et pendant l'occupation, précisément, sa maison se situait au carrefour de l'auberge Louis XIII. C'est par là qu'arrivaient les soldats qui voyageaient entre Chaland et Saint-Jean-de-Monts et qui passaient aussi entre la gare et Noirmoutier et inversement. Il avait vraiment une place privilégiée pour remarquer tout ce qui se passait. Je pense qu'il aurait pu très bien renseigner la résistance. Je ne sais pas s'il l'a fait. Ouais. Il n'en parle nulle part. Mais vraiment, il avait un poste d'observatoire. Lui, il a écrit tout ce qu'il voyait. Et c'est ce qui compose toute la première partie de cet ouvrage, avec des nouveaux textes que nous avons ajoutés. Puisque là, cette fois-ci, au lieu de partir de l'arrivée des Allemands à Chaland, nous sommes partis de 1939 et nous sommes allés jusqu'à 1945.
Voilà. Et dès les premiers combats, 40 000 Vendéens sont engagés et les Allemands atteignent la Vendée dès le 21 juin. Ils arrivent par où?
Alors, ils sont arrivés par Nantes. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est que dans ces textes que nous avons ajoutés, l'abbé Grelier se trouve le mardi, un mardi à Nantes, et les Allemands arrivent le mercredi. Et là, il nous décrit le chaos, littéralement, qui existe à Nantes, où tout le monde se précipite, les civils, les ouvriers, les armées également, françaises et belges, pour réussir à passer le pont de Pirmil, qui est à cette époque-là le seul lien qui existe entre la Bretagne et le sud de la Bretagne, enfin la Vendée, quoi, si vous voulez. Oui. Et ce pont, il doit normalement sauter. Il est prévu de le détruire pour éviter que les Allemands descendent plus bas. Et donc, il nous décrit ça d'une façon cinématographique. C'est vraiment exceptionnel, et c'est un texte qui ne figurait pas dans la première édition. Là, j'ai absolument voulu le mettre parce qu'il est vraiment, plein d'intérêt.
Et à Chaland, à quelle date ils arrivent, les Allemands?
Alors, les Allemands arrivent à Chaland. Vous allez me piéger, là. je ne l'ai pas en tête exactement.
Il me semble que dans le livre, c'est le 22 juin.
Le 22 juin, d'accord.
Et en fait, on apprend aussi que les côtes vendéennes sont propices au débarquement. Donc, du coup, les Allemands vont beaucoup venir en Vendée?
Alors, oui, surtout à partir de 1942, c'est-à-dire à partir de l'entrée en guerre des États-Unis. Ouais. Les Allemands se persuadent, voyant nos plages magnifiques, qu'il pourrait très bien arriver par là. L'Amérique, c'est en face. Oui. Bon, donc, à l'époque, on n'imagine pas, on pense peut-être encore pour les Allemands qu'on va réussir à faire capituler l'Angleterre, à détruire l'Angleterre. Donc, évidemment, c'est une zone avec ses plages qui est propice à un débarquement. Donc, on va être particulièrement surveillé sur des zones qui sont quasiment interdites à la circulation.
Alors, Chaland est occupé. Comment c'est pour les Chalandais de vivre sous l'occupation?
Eh bien, ils se débrouillent. Moi, les derniers Chalandais que j'ai rencontrés, Chalandaises que j'ai rencontrés, qui ont vécu cette période-là, ne sortaient pas beaucoup de chez eux, quoi. Les gens qui vivaient alors tout autour de Chaland, c'est-à-dire dans les hameaux, dans les fermes, évitaient de sortir. Tout le monde avait peur des Allemands, parce que vous pouviez vous faire arrêter pour peu de choses, pour un contrôle, mais on sait jamais jusqu'où pouvait aller le contrôle. Donc en fait, il y a un temps qui va être pendant 3 ans un temps d'attente, en espérant probablement évidemment qu'il y ait une suite favorable. Mais les gens ne sortent pas beaucoup et évitent la rencontre des Allemands, à part ceux qui, bien entendu, ont leur maison réquisitionnée, oui, et sont obligés de vivre avec l'occupant.
Dans le livre, on peut lire aussi des extraits du journal de l'abbé Grelier. Il décrit, vous en avez parlé, il décrit avec exactitude, il donne beaucoup à voir avec des bruits, des odeurs. Est-ce que vous avez en tête un autre extrait qui vous a marqué de l'abbé?
Écoutez, il y en a beaucoup. Ouais. Je n'aurais pas les détailler parce que je ne les ai pas tous en tête, bien entendu. Mais si vous voulez, à chaque fois que l'abbé Grelier décrit quelque chose, que ce soit l'occupation, que ce soit une cérémonie à l'église, comme par exemple le 300e anniversaire de la venue de Louis XIII sur l'île de Ré, il y a une foule de détails. Si un metteur en scène voulait reconstituer une cérémonie comme celle-ci, avec l'abbé Grelier, il a tout. On a l'emplacement des personnes, on a les chants, on a les textes, on a tout. C'est vraiment, vraiment superbe.
Oui, vous en avez un peu parlé. Quel a été son rôle pendant l'occupation à l'abbé Grelier?
Bon, écoutez, je pense pas qu'il ait eu un rôle très important. La résistance, je n'en sais rien. On sait qu'il a hébergé au départ des réfugiés, lorsque les réfugiés sont arrivés des Ardennes. On sait qu'ensuite sa maison a été réquisitionnée. Et donc il avait quand même une maison suffisamment grande avec beaucoup de pièces. Donc il a eu des Allemands chez lui. Donc ça limitait quand même, à mon avis, ses possibilités. Et puis il a continué, bien entendu, à visiter des personnes en tant que prêtre.
Et ce journal de l'abbé, vous l'avez trouvé où?
Alors, le journal de l'abbé, il a été... toutes les archives de l'abbé ont été récoltées, heureusement, par la Société d'Histoire, mais les archives de la Vendée.
Voilà. D'accord.
Aux archives de la Vendée, ça représente, je ne sais plus combien, 2 mètres ou 3 mètres d'archives, tellement il écrivait. Il écrivait dans les journaux, il écrivait même sous des pseudonymes.
Ah bon?
Oui, il écrivait pour lui, il écrivait sur... Il faisait des recherches permanentes. Il était quand même... officiellement, si vous voulez, au niveau archéologie, il était la personne que les chercheurs venaient voir en Vendée. Il avait donc une importance considérable.
Il était dans quel état, ce journal? Il était bien conservé?
Ah oui. Il est non seulement bien conservé, mais ce sont des cahiers, donc il y en a plusieurs.
D'accord.
Qui ont été mis en ligne, d'ailleurs, on peut les consulter. Et même à l'intérieur des cahiers, ils ont conservé, et c'est parfait, les billets, par exemple, de cinéma, les programmes des spectacles qui étaient donnés par la Sainte-Cécile à Châlons, etc., etc. On trouve beaucoup de choses.
Et il y a eu une exposition avant ce livre, c'était en 2016.
Oui.
Vous vous êtes appuyé aussi sur des travaux, enfin sur des récoltes de collégiens, de récits de collégiens. Enfin, vous avez fait appel aux collégiens.
Alors ça, il me semble que c'est plutôt pour Coudry. Pour la commanderie de Coudry.
Okay. Hein.
Mais on a également eu, effectivement, une exposition qui a été réalisée par Yann Massolo, c'est lui qui avait eu l'idée de ce livre également, sur l'abbé Grelier. Voilà.
D'accord.
Une exposition qui a tourné un peu, je pense qu'elle a été présentée aussi dans la vieille église de Salertaine, puisqu'il est à l'origine du sauvetage de cette église. Il est un petit peu aussi à l'origine du sauvetage de certaines pièces de la commanderie de Coudry.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, on continue de parler de ce livre, Châlons sous l'occupation, avec vous, Éric Croiset, juste après une pause musicale, Thierry.
Juste après, le duo Vianney et Ed Sheeran sur Neuve.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. It is the nights when I'm drunk that it hits me more.
Feels like everything's up the door, I was keeping close. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a righteous God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow.
Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça.
Je la sens la solitude sans toi.
J'avais l'habitude de tout ça.
Je la sens la solitude sans toi.
Leclerc.
Oh là là, trop bien! Et ça? Oh!
Le catalogue Noël magique du Leclerc de Chalons, c'est incroyable! 25 000 euros de lots à gagner, vous imaginez? Des remises jusqu'à 40%, cette année, tout le monde va être super gâté. En plus, des animations et la présence du Père Noël jusqu'au 24 décembre.
Ho ho ho!
Magique, on vous dit! C'est décidé, j'y vais!
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Leclerc de Chalons, le choix, la qualité, à prix Leclerc, voire conditions en magasin.
Je vais offrir un massage à Emma pour Noël. À maman et papa un soin et... Ouh, oh, peut-être qu'ils préféreraient... Bon, la meilleure solution pour être sûr de faire plaisir, c'est de les laisser choisir. Donc, un coffret cadeau à la Thalasso Valdis Resort de Saint-Jean-de-Mont. C'est parfait. Je choisis le montant et ils mettront ce qu'ils veulent dedans. Et tout le monde sera content, très content. Vous aussi, offrez un moment bien-être pour Noël avec les coffrets cadeaux du Valdis Resort à Saint-Jean-de-Mont.
Le Courrier Vendéen. Toute l'information de votre commune et du Nord-Ouest Vendée. Chaque jeudi, le Courrier Vendéen vous guide, vous informe, vous distrait, vous facilite la vie. Des scoops, des enquêtes, du sport, des idées de sortie. Le Courrier Vendéen, un autre regard sur l'actualité au plus près de chez vous.
À la une du Courrier Vendéen dans le Nord-Ouest Vendée, notre guide, des animations de Noël. Un jeune artisan finit 4e mondial et à Chalon, faut-il délocaliser l'hôpital à lire dans le Courrier Vendéen.
L'abdo, ça vous change le quotidien. Le Courrier Vendéen, c'est aussi sur actu.fr.
Moi, quand décembre arrive, j'ai l'impression d'être un gamin. Je trouve ça trop long d'attendre Noël. Heureusement que j'ai mon Hyper U Chalon. Vendredi 9 décembre, 30% de remise sur tout le rayon boucherie. Et samedi 10 décembre, 30% de remise sur tout le rayon fromage à la coupe. Je sens déjà qu'on va se régaler. Et pour les cadeaux aussi, vendredi et samedi, 30% sur les téléviseurs. Ah, ils savent me faire patienter en beauté dans mon Hyper U Chalon.
Commerçant autrement.
Voir conditions en magasin pour votre santé bouger plus.
Jusqu'à 13h et en direct la suite des rendez-vous de midi. Aujourd'hui, votre invité Nicolas, vous recevez dans nos studios Éric Croiset.
Et oui, président de la Société d'Histoire et d'Études de Nord-Ouest Vendée, dit aussi la Maison de l'Histoire pour le livre Chalons sous l'Occupation. Alors on l'a dit, ce livre répertorie des extraits du journal de l'abbé Grelier, mais aussi du capitaine Débouté, et réédition avec 50 pages supplémentaires, ouais. Et des extraits inédits, notamment on apprend qu'un avion s'est écrasé Pas loin de Chalon.
Pas loin de Chalon, effectivement, c'est un mosquito. Il s'est écrasé à Bois-Fossé. Bois-Fossé, c'est à peu près le Bois des Bourbes, hein, c'est dans ce secteur-là. Les deux pilotes ont réussi à sauter en parachute avant que l'avion ne s'écrase. Et leur aventure est très intéressante parce qu'ils vont être non pas pris, heureusement, par les Allemands qui les recherchent activement, mais ils vont être recueillis par des familles qui vont réussir à les cacher suffisamment longtemps et ensuite à leur permettre de repartir et de regagner l'Angleterre et de reprendre le combat jusqu'à la fin de la guerre. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces deux pilotes, très marqués par l'aide qu'ils avaient reçue ici, sont revenus après la guerre, bien après la guerre, pour rencontrer à nouveau les personnes qui les avaient aidés. Et il y en a un des deux qui a même voulu que ses cendres soient déposées dans la commune de Touvois. Hein, juste en bord de la Vendée, de la Loire-Atlantique. Voilà, donc cette histoire qui est racontée par Henri Philippot, qui est donc passionnante. On a également, grâce aux archives que nous a apporté Michel Villéger, qui viennent de M. Jean Mourin, la liste manuscrite des 250 prisonniers de guerre, qui ont donc passé pratiquement le temps de la mobilisation, le temps de la guerre, la drôle de guerre, 39-40, et puis ensuite des années de captivité en Allemagne. C'est intéressant de l'avoir, surtout qu'on a des détails sur notamment les camps où ils étaient enfermés, les stalags, ce qu'on appelait les stalags.
Voilà. Je l'ai dit, il y a aussi des extraits du journal du capitaine Débouté.
Ah oui, bien sûr.
Qui était ce capitaine?
Alors, le capitaine Débouté est un néo-chalandais, puisqu'il est arrivé après la guerre de 14-18, où il avait déjà perdu un bras. Il se destinait à une carrière dans l'enseignement. Hein, c'est un républicain, ce qu'on appelle un républicain à l'époque, ça n'a rien à voir avec les républicains de maintenant, c'est plutôt gauche, hein, d'accord. Et donc, comme il a perdu un bras, il se destine maintenant à l'administration, il va faire passer des concours, et il va être reçu pour être inspecteur des impôts. Et il va décider de venir s'installer à Chalon, précisément parce que Chalon a un maire républicain, et que ça lui plaît particulièrement. Il va s'y installer, il va s'intégrer dans la vie chalandaise, il va même être le président des œuvres postscolaires à Chalon. Et lorsque le conflit, le deuxième conflit qu'il va connaître, va arriver, eh bien, il va entrer dans la résistance très rapidement. Il va collaborer avec des gens qui sont sur la Roche-sur-Yon, entre autres, et aussi d'autres personnes sur Chalon. Le réseau va être repéré, et il va partir se cacher pendant quelques temps à Paris, et puis la libération arrive. Et là, à ce moment-là, on lui demande de retourner en Vendée, on lui donne le titre de capitaine, et il doit former ce que deviendront les FFI. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les FFI de Chalon, mais de différentes communes qui sont autour, vont être chargés d'aller surveiller le sud de la poche de Saint-Nazaire, où sont toujours les Allemands. Les Allemands vont y rester jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à l'armistice, si vous voulez.
Voilà. FFI, on peut préciser?
Alors, FFI, ce sont les forces françaises libres.
D'accord.
La force française de l'intérieur.
Et grâce à lui, on en apprend un peu plus sur le départ des Allemands en 44. Et même après le départ, c'est encore un jeu du chat et de la souris entre les Allemands et les...
Ah oui, bien sûr. Une fois que, parce que les Allemands partent en août 44 de Chalon. Et là, comme je vous le dis, la poche, alors il y a la poche de Saint-Nazaire, celle de Lorient, celle de La Rochelle et celle de Royan également. Donc les Allemands sont toujours là, ils sont encerclés, ils sont bombardés, mais ils ne lâchent pas et ils ne capituleront qu'à la fin de la guerre. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, les FFI vont être dispersés, notamment dans le pays de Ré, hein, pour empêcher toute sortie possible de ces Allemands qui sont enfermés là.
Alors votre travail ne consiste pas seulement à récolter des témoignages, vous avez aussi répertorié sur une carte les lieux d'occupation à Chalon. Oui. Vous êtes combien à travailler sur ces documents?
Alors là, pour ce document-là, on a travaillé à 3.
D'accord.
Mais on a bénéficié de certaines informations qui nous viennent de l'extérieur et on espère en avoir d'autres. Parce que ce que l'on a donné n'est pas exhaustif. On ne connaît pas tout. Hein. On a essayé de noter sur cette carte les lieux où il y avait des fortifications, des blocos, des barrages pour empêcher les véhicules de passer. On a essayé de donner aussi l'endroit où il y avait des casernements pour les Allemands, l'endroit où était évidemment la commandanture, et puis certaines maisons qui étaient réquisitionnées. C'est le cas par exemple du château d'Avery, qui est bien connu. Bon, le château d'Avery est réquisitionné par les Allemands, donc les propriétaires, le château de Saint-Christophe aussi, on leur laisse une petite petite pièce pour vivre. Et puis tout le reste est occupé par les officiers. Hein. Ce ne sont pas les gens de la troupe qui les occupent.
Il y a aussi beaucoup d'illustrations dans le livre. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez, une qui vous a marqué?
Alors il y en a une qui amène plusieurs questions. On a fait un article sur l'armée des travailleurs européens. Mmh. Alors j'ai trouvé ça dans les archives de mon père. L'armée des travailleurs européens, contrairement aux ce qu'on appelle aux STO qui ont été envoyés en Allemagne pour travailler à la place des Allemands qui eux sont partis sur le front, ils restent ici et ils vont être. Ce sont des jeunes et ils sont réquisitionnés régulièrement pour aller aider à la construction du mur de l'Atlantique. Et aussi là pour l'épisode qui est raconté pour aller planter dans le marais des pics qui vont empêcher les avions éventuellement d'atterrir.
D'accord.
Voilà. Alors sur cette armée européenne, il y a 4 photos graphiques sur les personnes qui sont là. Je ne connais que mon père, mais les autres personnes sont des Chalandais aussi. Donc on fait appel aux personnes. Si vous les reconnaissez, eh bien n'hésitez pas à nous appeler pour que l'on puisse identifier tout le monde.
Un petit mot aussi. L'année prochaine, c'est les 50 ans de la Société d'Histoire.
Ce sont les 50 ans de la Société d'Histoire. C'est en 1973 qu'elle a été créée, d'ailleurs par un Gervinois.
D'accord.
On dit Gervinois, hein.
Oui.
C'est ça. Michel Thomas. Qui est un néo-gervinois, il n'était pas originaire d'ici, mais c'est lui qui a créé également le Salon du Livre de Saint-Gervais. Hein. Et c'est lui qui a lancé la Société d'Histoire avec des gens de Chalands, bien entendu, qui étaient des passionnés. Voilà. Et donc l'année prochaine, 2023, c'est le 50e anniversaire. Donc nous sommes en train d'y travailler.
Oui, vous prévoyez quelque chose?
Ah oui, bien sûr. On va sortir un numéro qui va quand même essayer de nous replonger un petit peu dans les années 70 à Chalands. Ce sont des années importantes où Chalands grandit énormément. Et puis on va essayer également de prévoir peut-être un ou deux événements à cette occasion-là.
D'accord. Où est-ce qu'on retrouve ce livre, Chalands sous
l'occupation? Alors celui-ci, vous pouvez le trouver bien entendu à la Maison de l'Histoire.
D'accord.
Lorsque nous sommes là, c'est-à-dire le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et puis, vous pouvez le trouver aussi à la Maison de la Presse de Chalands.
Merci beaucoup, Éric Croiset, voilà. Président de la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée, autrement dit, la Maison de l'Histoire. Vous venez nous présenter le livre Chalands sous l'occupation.
Dodo, maintenant.
Ah oui, et là, Dodo.
Merci, Éric Croiset, passionnant. L'émission podcast arrive évidemment très vite à écouter de chez vous pour ce week-end, 9fm.fr et notre appli. À bientôt sur notre antenne, Éric Croiset. Très vite, Nico.
À très vite.
Merci. 13h, les infos. Et puis le retour évidemment des émissions la semaine prochaine pour les fêtes de fin d'année. D'autres sujets, d'autres invités, ce sera à 12h35. Marc Lavoine, Imagine Dragons, c'est juste après les infos sur Neuve. Il est 13h.